Vous écoutez, on lit pour vous.
Les longs délais en immigration, plus politique qu'il n'y paraît, un texte de Sarah R. Champagne paru le 8 avril 2025 dans Le Devoir. Il n'est pas rare que des politiciens mettent en cause l'inefficacité administrative pour les longs délais en immigration. Deux politologues concluent plutôt que le politique en est aussi responsable, en plus d'autres facteurs, dans une nouvelle étude sur le Canada et l'Australie publiée récemment. Les décisions politiques peuvent d'abord créer des files d'attente monstres dans différentes catégories d'immigration. Ce sont aussi les actions entreprises ou l'inaction devant ces délais qui peuvent devenir une stratégie politique, puisque les élus ont notamment le pouvoir de catégoriser les migrants entre ceux qui mérite ou non d'être priorisé, décrit notamment cette recherche parue dans le Journal of Immigrant and Refugee Studies. Les délais sont de plus en plus mobilisés par les politiciens pour restreindre les programmes, explique Mireille Paquette, professeure de sciences politiques à l'Université Concordia et co-autrice de l'étude. Dans cette logique-là, il y a une idée qui ressort selon laquelle il n'y a pas assez de ressources pour gérer toutes les demandes. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres raisons, et c'est ce qu'on a documenté, détaille celle qui est aussi co-directrice de l'Institut de recherche sur les migrations et la société. L'État utilise souvent cet argument d'inadéquation entre la demande et la capacité bureaucratique pour expliquer l'attente qui s'étire pendant que les autres éléments sont très sous-estimés, dit-elle. Les facteurs liés au système informatique sont notamment passés sous silence, note Mme Paquette en entrevue, puisqu'ils sont internes et donc invisibles pour le commun des mortels. Les ministères de l'immigration font face aux mêmes défis, par exemple, que la SAAC, lors du passage au numérique. Les arriérés de dizaines de milliers de demandes qui se forment rapidement peuvent aussi être dus à une mauvaise élaboration des politiques en tout premier lieu. Avec sa collègue de l'Université de Sydney, Anna K. Boucher, Mme Paquette donne l'exemple du programme de réunification familiale au Canada pour les parents et les grands-parents, créé sans limites annuelles. En 2011, la file avait grimpé à plus d'un million de demandes et le ministre de l'Immigration fédérale avertissait qu'il faudrait de 15 à 20 ans pour écouler toute cette liste. Un plan d'action a alors été créé la même année, mais il a tout de même fallu 10 ans pour en arriver à bout. Des outils à disposition. Il y a aussi des manières de répondre à ces arriérés migratoires, mais qui sont aussi souvent politiques. On peut décider de reprioriser ou de réorienter certaines catégories en créant des programmes, comme ce fut le cas avec le visa pour les grands-parents, cite Mireille Paquette. Le super visa pour les parents et les grands-parents est temporaire et valide 10 ans. Il a notamment contribué à réduire cette fameuse file de 2011. C'est un exemple qui montre que ce n'est pas vrai que la seule solution est de fermer les vannes, même si ce n'est pas parfait. Québec a par ailleurs choisi de mettre un frein au programme de parrainage familial pour écouler les demandes plutôt que de rehausser sa cible, deux manières d'utiliser ses prérogatives en immigration. Ottawa a souligné à plusieurs reprises que ce sont les cibles de la province qui ralentissent le traitement des demandes, et non pas la machine administrative. Le gouvernement de François Legault pourrait également diminuer d'environ 20% le nombre de personnes comptabilisées comme demandeurs d'asile, puisque plus de 30 000 d'entre eux ont déjà été acceptés comme réfugiés par Ottawa. Le cas des résidents temporaires est encore compliqué, car, pour l'instant, Québec et Ottawa tiennent un débat pour savoir à qui revient la faute, au lieu d'examiner tous les outils à leur disposition. Les deux chercheuses vont continuer à documenter le phénomène, notamment en se penchant sur l'expérience des personnes elles-mêmes. Les délais ont un effet tangible sur la santé mentale et physique, sur le sentiment d'appartenance et le désir de participer à la société. Ils changent la relation entre la personne et l'État, conclut Mireille Paquette. C'était les longs délais en immigration plus politiques qu'il n'y paraît. un texte de Sarah R. Champagne paru le 8 avril 2025 dans Le Devoir.
Lancement régional de la Marche mondiale des femmes 2025. Un communiqué de la rédaction paru le 2 avril 2025 dans Hebdo Rive-Nord. Plus de 100 personnes provenant des groupes de femmes, des groupes syndicaux et communautaires, ainsi que des élus, se sont réunis pour lancer la 6e édition de la Marche mondiale des femmes dans Lanaudière sous le thème « Encore en marche pour transformer le monde ». Organisée par la table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière, TCGFL, cette journée d'information et d'animation a permis de dévoiler un calendrier d'action qui convergera vers le grand rassemblement de toutes les régions de la province qui se tiendra à Québec le 18 octobre 2025. Lors de cette rencontre, les personnes présentes ont participé à un quiz, à une conférence et à un panel pour sensibiliser sur les droits des femmes au niveau international et sur les orientations de la Marche mondiale des femmes. La coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, CQMMF, a pour mission de promouvoir l'égalité entre toutes et tous, de lutter contre les discriminations systémiques et de contribuer à l'élimination des causes de la pauvreté et de la violence. A expliqué Emilia Castro, porte-parole de la CQMMF et conférencière au lancement. En ce sens, la Marche mondiale des femmes met de l'avant trois grandes orientations. Dénoncer le continuum de la violence envers les filles et les femmes. Dénoncer la pauvreté qui représente une violence systémique. Dénoncer le capitalisme responsable de la crise climatique et de l'effondrement de la biodiversité au détriment de la santé et de la vie des populations et celle des prochaines générations. Dans Lanaudière, des problèmes persistent, que ce soit au niveau de la pauvreté, des violences qui ne cessent envers les femmes, ainsi que la dégradation de l'environnement. Francine Rivet, coordonnatrice de la TCGFL, a souligné « En raison des tendances conservatrices, de la montée de la droite, ainsi que de la privatisation des soins de santé et de l'éducation, les femmes sont encore en marche pour transformer le monde. On souhaite que cette journée favorise la solidarité et la mobilisation de toutes et de tous » pour continuer à bâtir une société fondée sur l'égalité et sur la justice. C'était lancement régional de la Marche mondiale des femmes 2025. Un communiqué de la rédaction paru le 2 avril 2025 dans Hebdo Rive-Nord.
Nous n'habitons pas ce pays. Un texte de Mathieu Bellil, paru le 10 avril 2025 dans La Presse. Je me souviens encore de 1995. Je venais de finir mon cégep et j'avais décidé de prendre une année de congé avant l'université. Trop de choses m'intéressaient. Je n'arrivais pas à me décider et, comme choisir, c'est mourir un peu. J'avais décidé de rester bien en vie en voyageant pendant toute une année. À l'époque, c'était une sorte de rite de passage. les jeunes Québécois partaient pour l'Ouest planter des arbres, cueillir des champignons, faire du surf à Tofino, avec un arrêt obligatoire à Banff, dont le parc débordait de jeunes voyageurs, sac à dos à l'épaule et cigarettes au bec. À la fin de l'été, j'étais monté à Dawson Creek, petite ville perdue du nord de la Colombie-Britannique, à 17 heures de route de Vancouver, le 1000 de l'Alaska Highway, où j'avais accepté un contrat pour enseigner le français dans une école primaire. Située en plein cœur d'un important gisement de gaz naturel, dont les puits sont reliés au Pacifique par un réseau de pipelines, Dawson Creek est un pays de cow-boys et de rednecks sympathiques où tout le monde, ou à peu près, conduit un pick-up et transporte sa carabine juste au cas. De fait, je venais à peine de débarquer de l'avion que je partais à la chasse, fusil à la main, à l'invitation de mes nouveaux colocataires, Brett, Kip et Aiden. Pour ces gars avec qui j'allais passer l'année, j'étais une sorte de curiosité, un animal exotique, le Frenchman. Et puisque le Québec était en pleine fièvre référendaire, il me posait toutes sortes de questions, à commencer par celle qui tue. « So, Matty Boy, c'était mon autre surnom. Is it yes or no? » Comme j'avais décidé de voter oui par correspondance, j'évitais de répondre trop directement par peur de perdre leur amitié, d'autant qu'on m'avait prévenu qu'au Nord, personne n'a les moyens de traverser l'hiver seul. En janvier, quand il fait moins 45 Celsius, oui, et que le soleil trace un tout petit arc à l'horizon, il se lève à 10 heures et se couche à 14 heures. Il faut compter sur un peu de compagnie pour survivre. J'éludais donc la question, tout en cherchant à leur expliquer pourquoi les Québécois voulaient leur propre pays. Je me rappelle combien il était difficile pour eux de comprendre de quoi je parlais. Dans leur esprit, le Québec était une sorte d'abstraction, aussi éloigné d'eux que le sont pour nous l'Irlande ou le Guatemala, ou c'est bien dire un pays étranger. Ils cherchaient des points de comparaison, me parlaient des Ukrainiens arrivés ici au cours du siècle, dont nous raffolions de la spécialité le vareniki, sorte de dumpling à la pomme de terre nappée de crème sure et bacon, tout ce qu'il y a de plus léger. Si ces immigrants avaient renoncé à leur langue et à leur culture pour se fondre dans la masse, pourquoi les Québécois ne faisaient-ils pas de même? J'avais beau leur parler de l'antériorité du français, des explorateurs qui avaient nommé les lacs et les rivières, de ces colons qui, jusque dans l'Alberta voisine, avaient fondé des villes et des villages. Ils ne comprenaient pas. Tout était trop jeune ici, sans âge ni mémoire. Pour la plupart des gens, l'histoire se comptait en décennies, Dawson Creek n'étant habité que depuis une cinquantaine d'années. Cette incompréhension n'était pas seulement culturelle. Elle avait quelque chose à voir, je crois, avec l'immensité même du Canada. Cet ensemble disparate de provinces et de territoires à peine liés, sinon par quelques routes et voies ferrées. Ce qui me frappait à l'époque, quand je survolais les Rocheuses, le nord de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, et qui me frappe encore aujourd'hui quand je vole au-dessus du Labrador, de la Côte-Nord et de la Gaspésie, c'est à quel point nous n'habitons pas ce pays, à quel point le Canada, hormis une petite bande de terre située le long de la frontière, est inoccupée. D'ailleurs, si j'étais à la place de Trump et de son état-major, je me méfierais d'un pays aussi plein de vide. Quelque chose me dit qu'à force d'avancer sur ces terres de silence et d'absence, on finit par toucher le bout et tomber dans l'abîme, comme dans les légendes de navigateurs du Moyen Âge. Parlez-en à John Franklin et à son équipage, partis il y a deux siècles à la recherche du fameux passage du Nord-Ouest, et qui sont restés prisonniers des glaces. Trop de froid, trop de blanc, trop d'infini. Le territoire a fini par les avaler. C'est vrai. La menace incarnée par Trump nous oblige à sortir de notre hibernation. Elle bouscule particulièrement les Canadiens anglais, pour qui le risque pour l'unité du pays est toujours venu de l'intérieur, du Québec, et non des États-Unis, cet étranger proche dont ils ont oublié de se méfier à force de lui ressembler. Pour ceux qui ont connu l'ère agitée des référendums, celle d'un Canada fort et uni contre le projet de pays défendu par Lévesque, Parizeau et Bouchard, il est fascinant d'entendre ces jours-ci des politiciens canadiens parler le même langage qu'eux, défendre avec la même conviction la souveraineté du Canada, parler de cette indépendance qu'ils ont toujours refusée à leurs adversaires. D'ailleurs, comme naguère les chefs souverainistes québécois en quête de reconnaissance, le premier ministre Mark Carney, aussitôt désigné, s'est précipité en France pour obtenir l'appui de son président, espérant peut-être entendre Macron crier comme au temps du général de Gaulle « Vive le Canada libre !» Cette ferveur durera-t-elle? La campagne électorale qui se déroule en ce moment, d'une remarquable platitude, nous rappelle à quel point nous vivons au pays de la tranquillité, dont la devise officieuse pourrait se résumer ainsi « Please do not disturb, prière de ne pas déranger. Un pays où il y a toujours moyen de trouver la sainte paix, de trouver un lieu sans voisin, un champ, une forêt, un lac, où l'on pourra continuer de se croire à l'abri du monde. C'était « Nous n'habitons pas ce pays », un texte de Mathieu Bellil, paru le 10 avril 2025 dans La Presse.
Réussir son entrevue, un art à maîtriser. Un texte de la rédaction, paru le 9 avril 2025 dans L'Action. En collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm. L'entrevue d'embauche est une étape cruciale pour décrocher un emploi. Pour beaucoup, elle suscite autant d'excitation que d'appréhension. Cependant, une préparation adéquate peut transformer une entrevue en une opportunité de démontrer ses compétences et sa personnalité à un employeur potentiel. Voici quelques conseils pour bien se préparer et comprendre les attentes lors de cette rencontre décisive. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'entrevue est une chance pour l'employeur de voir au-delà du CV. C'est l'occasion de découvrir qui vous êtes vraiment, d'évaluer votre compatibilité avec l'équipe et de déterminer si vos compétences et expériences répondent aux besoins du poste. Pour vous, c'est une opportunité pour mettre en valeur vos atouts et démontrer votre motivation. Les types de questions généralement posées. Durant une entrevue, certaines questions classiques reviennent fréquemment. Par exemple, parlez-moi de vous. On vous invite alors à vous présenter en soulignant vos qualités, expérience et réalisation pertinente. Quelles sont vos principales qualités et défauts? L'employeur cherche à connaître vos forces et vos axes d'amélioration. À ce sujet, il est fortement recommandé d'éviter de mentionner que vous êtes perfectionniste, surtout si vous ne l'êtes pas. Pourquoi souhaitez-vous rejoindre notre entreprise? L'employeur souhaite évaluer votre intérêt et votre connaissance de l'entreprise. Quelle est votre plus grande réalisation? Cette question permet de démontrer votre capacité à obtenir des résultats concrets. Pourquoi devrions-nous vous embaucher? On vous invite à relier vos compétences au poste et à démontrer votre valeur ajoutée. La préparation est une étape cruciale pour réussir une entrevue. Commencez par vous renseigner sur l'entreprise et le poste en question afin d'obtenir une compréhension claire des valeurs de l'entreprise et des spécificités du rôle. Cela prouvera votre intérêt et votre motivation à l'employeur. Ensuite, approfondissez la connaissance de soi en réfléchissant à vos expériences, réalisations et qualités. Préparez des exemples concrets qui mettent en lumière vos compétences. Pratiquez vos réponses aux questions classiques de l'entrevue. Tenez-vous à des réponses concises, claires et précises, tout en évitant les tics nerveux, ce que vous pouvez faire en vous exerçant devant un miroir ou avec un ami. Enfin, préparez des questions pertinentes à poser à la fin de l'entretien, démontrant ainsi votre enthousiasme et votre implication face à l'opportunité qui vous est présentée. Il est essentiel d'être fidèle à soi-même lors d'une entrevue. L'authenticité est souvent ce qui marque le plus positivement un employeur. Soyez honnête à propos de vos compétences et engagez-vous à vous améliorer. De plus, montrez votre enthousiasme et transmettez une énergie positive. Une attitude ouverte et sincère contribue à créer une connexion authentique avec votre interlocuteur. Pour conclure, les entrevues sont des moments déterminants dans le parcours professionnel et éducatif d'une personne. Avec une bonne préparation, une compréhension des questions posées et une attitude authentique, l'entrevue devient alors une occasion de montrer votre plein potentiel. C'était « Réussir son entrevue, un art à maîtriser ». Un texte de la rédaction paru le 9 avril 2025 dans l'Action.
De la jeunesse dans nos oreilles, un texte de Marine Dumaine, paru le 3 avril 2025 dans l'Aurore boréale. Depuis février dernier, les oreilles du monde entier peuvent désormais se délecter de contenu 100% franco-yukonais sur les ondes de la plateforme d'écoute en ligne Spotify. Deux employés de la commission scolaire francophone du Yukon sont à l'initiative de ce projet. Deux élèves et un enseignant s'y sont joints. Ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast pour la commission scolaire que je pensais gérer moi-même, explique Dakota Bernard, coordonnatrice culturelle et communautaire au CSSC Mercier. Pour ce faire, elle a approché Mirana Ravalomanda, responsable des communications de la CSFY, et, ensemble, elles ont créé un compte sur lequel il serait désormais possible de déposer du contenu. La pierre était lancée. Des jeunes ont répondu à l'appel. Si, initialement, Dakota Bernard pensait gérer seul ce compte Spotify, c'était sans compter sur l'enthousiasme de quelques élèves. En fait, quand j'en ai parlé aux élèves, j'ai deux élèves qui sont venus me voir en me disant « En fait, on aimerait vraiment ça créer un podcast. On a toutes sortes d'idées, donc est-ce que tu serais prête à nous laisser l'opportunité de le faire ?» explique la jeune femme. C'est ainsi que le podcast de Mercier, par James et Peter, a commencé. Sur le web, les noms des jeunes ont été modifiés. Derrière James et Peter se cachent en réalité Nicolas Ficot et Émilien Roy, deux élèves de 7e année. Ensemble, ils animent l'émission, choisissent des chansons, créent des listes de lecture et, à l'occasion, mènent des entrevues. Le premier balado, a été mis en ligne le 6 février dernier. Les jeunes y abordent l'univers de Tolkien. Plus tard, les élèves se sont entretenus avec des invités au sujet du Salon du Livre. Et, plus récemment, ils ont eu l'occasion de réaliser une entrevue avec Mario Lepage, artiste du groupe Pointex, en visite dans leur école. Ils peuvent parler vraiment de tout et de rien. Le principe, c'est juste d'avoir des discussions entre eux ou avec des invités et de parler de choses qui les intéressent, de leur quotidien dans l'école, dans la communauté, dans le monde, explique la coordonnatrice culturelle. Ces deux élèves sont intéressés par beaucoup de sujets. Donc, le but est de leur laisser un espace d'expression pour justement parler de ce qui les intéresse et qui peut peut-être intéresser d'autres gens. Pour les accompagner dans le projet, Dakota Bernard s'occupe de l'édition et de leur préparer la salle pour l'enregistrement. Mais aussi, après, je m'occupe un peu du branding, de leur faire un logo pour la plateforme, d'ajouter de la musique de fond qu'ils choisissent, etc. Un enthousiasme contagieux. Place à la philo. Lorsque Dakota Bernard a annoncé la nouvelle à l'équipe du personnel enseignant, elle en a profité pour aussi lancer un appel. Si quelqu'un voulait ajouter du contenu, il serait tout à fait possible de l'ajouter sur la plateforme afin de bonifier le compte nouvellement créé, puisque déjà, en plus des balados des deux élèves, la jeune femme crée des listes de lecture en français. Un enseignant a répondu à l'appel et a proposé la minute philosophique. Steve Rohard, enseignant au secondaire, publie chaque mercredi un épisode de moins de 4 minutes dans lequel il vulgarise un sujet philosophique. À ce jour, on y retrouve notamment l'allégorie de la caverne, les quatre accords Toltec ou le cogito de Socrate. Le but, c'est d'avoir une plateforme rassembleuse avec du contenu francophone accessible directement, conclut Dakota Bernard. C'est une plateforme pour permettre aux élèves et aux professeurs de s'exprimer et aussi de retrouver des choses comme des playlists avec la musique francophone de partout dans le monde. Le but, c'est de créer un lien entre l'école, les parents et la communauté. C'était « De la jeunesse dans nos oreilles », un texte de Marine Dumaine, paru le 3 avril 2025 dans l'Aurore boréale.